Chapitre 26.
Seigneur Ral, vous êtes blanc comme un linge. Que se passe-t-il? Et qui sont ces demi-humains? Nadja donne-t-elle des explications?
Samantha se pencha vers Richard.
Seigneur, répondez-moi!
Se massant les tempes avec les pouces, le sourcier vérifia une nouvelle fois sa traduction. Face à un concept si étranger à tout ce qu'il connaissait, il en arrivait à ne plus se faire confiance. Pourtant, il ne se trompait pas. Les demi-humains sont des êtres vivants qu'on a privés de leur âme.
Privés de leur âme? Seigneur, vous êtes sûr de comprendre le langage de la création?
Richard vérifia une nouvelle fois. Pas d'erreur possible. D'ailleurs, la suite du passage confirmait sa traduction. Et tant pis s'il avait du mal à en croire ses yeux et son cerveau. Je préférerais ne pas le pratiquer, crois-moi. Tu vois ce symbole très complexe? Il signifie très clairement que les êtres retenus par la haute muraille n'ont pas d'âme.
C'est absurde, Seigneur. Comment un humain pourrait-il ne pas avoir d'âme? C'est notre essence même, voyons. Sans âme, il n'y a pas d'existence possible. Ce serait comme dire...
Samantha chercha un exemple frappant.
Eh bien, que les vivants ne sont pas vivants.
C'est très exactement ce que ça signifie en un sens. Selon Nadja, les demi-humains ne sont pas comme nous, mais presque, entre l'humain et l'inhumain, si tu vois ce que je veux dire.
Non, je ne vois pas du tout.
Eh bien, les morts et les demi-humains ont des points communs, et c'est ça qui les sépare de nous, de la définition classique de l'humanité en tout cas.
La définition classique de l'humanité, de quoi parlez-vous donc?
Eh bien, cette définition classique... C'est que les êtres humains vivants ont une âme. Mais si on creuse un peu, qu'est-ce que ça veut dire? Pour une part, avoir une âme signifie qu'on est pleinement capable de réfléchir. Tu suis mon raisonnement?
J'ai peur que non. Quel rapport entre l'âme et la réflexion?
L'aptitude à réfléchir est la clé, car c'est elle qui nous permet d'éprouver de la compassion pour les autres. En d'autres termes, d'accorder une valeur à la vie. Et si nous distinguons le bien du mal, c'est aussi grâce à nos facultés intellectuelles. La raison fonde la morale et non l'inverse, comme on le croit souvent à tort. Nadja explique que les demi-humains sont incapables de compassion et elle souligne qu'ils ne disposent pas de toutes leurs aptitudes intellectuelles. C'est sa manière de nous faire comprendre que les deux notions sont liées. L'aptitude au dépassement de soi des demi-humains a été éradiquée en utilisant la magie soustractive. Privés de ce type de raisonnement, ils sont devenus incapables d'empathie. Avec leur cerveau mutilé, ils peuvent encore réfléchir, mais de manière très limitée, comme un prédateur qui élabore une stratégie pour chasser. Comprends-tu pourquoi ils sont différents de nous? Au sens strict du terme, ce ne sont pas des humains. Ils vivent sans tenir compte de leur environnement, sans aspirer à une meilleure existence et sans se soucier de ce qui arrive aux autres. Ils fabriquent des armes, ils chassent, ils tuent, ils mangent et ils se reproduisent. En apparence, ils sont humains, mais ça s'arrête là. Samantha leva les yeux vers Richard.
Je comprends que Sulakan ait voulu se créer une armée pareille, mais croyez-vous qu'une telle chose soit possible?
On dirait bien, souffla Richard tout en continuant sa lecture. Dans la suite, Nadja explique que la grâce, donc l'essence même de ces êtres, a été littéralement dévasté en eux. Ensuite, ils sont possédés par une magie très similaire à celle qui ranime les morts. En procédant ainsi, les inventeurs de Sulakan ont créé une race de demi-humains prête à servir aveuglément l'empereur, et à le servir très longtemps parce que les demi-humains vieillissent lentement, presque imperceptiblement même. C'est un effet secondaire de la magie soustractive, dirait-on. Fort sceptique, Samantha croisa résolument les bras.
La magie peut faire bien des choses, mais elle ne ralentit pas le vieillissement, sinon tous les détenteurs du don seraient quasiment immortels.
Tu ne penses pas si bien dire. Au palais des prophètes, j'ai vu de mes yeux que c'est possible. Des antiques sortilèges altéraient le passage du temps, et les habitants du palais vieillissaient beaucoup plus lentement que les gens du dehors. L'idée de départ était de donner assez de temps aux sœurs de la lumière pour former les jeunes sorciers. J'ai connu des gens qui ont vécu ainsi des centaines d'années, en tout cas selon notre manière de mesurer le temps. Un de mes ancêtres, Nathan Rall, a passé la plus grande partie de sa vie au palais des prophètes. Eh bien, aujourd'hui, il approche de son 1000e anniversaire.
« Vivre 1000 ans ?»
soupira Samantha.
« Seigneur, j'aimerais tant voir les merveilles qui existent hors des terres noires. Mais je sais depuis toujours que je suis condamné à vivre ici et à ne jamais découvrir le monde, comme mes ancêtres. Pourtant, je rêve de ces merveilles. »
Je ne sais pas si le mot « merveille » est approprié. Bien souvent, ce sont plutôt des sources intarissables de problèmes. Samantha prit le temps d'assimiler cette révélation, puis elle revint au sujet brûlant.
« Mais ces demi-humains ne vivent pas dans un endroit altéré par des sortilèges. Comment est-il possible de ralentir leur vieillissement ?»
C'est là qu'intervient la magie soustractive.
« Seigneur, ces antiques sorciers la maîtrisaient, c'est vrai, mais aujourd'hui personne n'en est plus capable.
Détrompe-toi. Même de nos jours, il reste une poignée de gens qui dominent le côté sombre du don. » Richard ne crut pas bon de préciser qu'il était du nombre, en tout cas lorsque son don était fonctionnel. Samantha écarquillant de nouveau les yeux, il reprit ses explications. Pour altérer la grâce, les sorciers ont recouru à la magie soustractive. Celle-ci étant liée au royaume des morts, il est assez logique que les demi-humains ne vieillissent presque pas.
Pourquoi ça? Quel rapport entre le royaume des morts et l'âge?
Nos vies ont des limites. Nous naissons, nous vieillissons, puis nous mourons. Mais quand on est mort, c'est pour toujours, pas vrai?
Exact, oui. Et alors?
Nos vies sont mesurables dans le temps, alors que la mort, elle, est éternelle. C'est la vie qui donne naissance au temps.
Quand nous mourons, notre esprit commence son séjour dans le royaume des morts. N'est-ce pas très comparable à la naissance dans le monde des vivants?
Sauf que nos vies ont une fin. Après coup, on peut dire combien de temps a duré l'existence d'une personne. Dans le royaume des morts, il y a certes une sorte de commencement, mais sans qu'il y ait jamais de fin. C'est pour ça que la grâce montre un début à la vie, la création, ainsi qu'une fin, la mort. Mais le royaume des morts, lui, n'a pas de fin, et quand nous y séjournons, c'est pour l'éternité.
Seigneur, ce séjour commence à un moment, donc on peut mesurer le temps même pour les morts.
Comment, en l'absence de fin?
Pourrais-tu mesurer une corde qui n'aurait qu'une extrémité? Si tu ne peux jamais atteindre l'autre bout parce que cette corde est infinie, tu ne sauras jamais rien de sa longueur. La vie, du début à la fin, est parfaitement quantifiable, pas la mort.
Samantha s'efforça d'assimiler ce concept déconcertant. « Chaque jour vécu, continua Richard, se défalque du total que nous avons à vivre. C'est pour ça que le temps compte tellement à nos yeux. La vie étant précieuse, lui aussi le devient. Du coup, il ajoute de la valeur à des notions comme l'amour. Pour ceux que nous aimons, ne sommes-nous pas prêts à donner du temps, soit notre bien le plus précieux?
Je n'ai jamais pensé au temps sous cet angle. Mais je sais que je chéris les jours passés avec mes parents et que je les regrette de tout mon cœur. Mais qu'en est-il du temps dans le royaume des morts?
Quand on meurt, c'est pour l'éternité. Quand ils séjournent chez le gardien, les esprits n'ont pas le sentiment de vieillir. Sais-tu pourquoi? Parce qu'un esprit ne vieillit pas. Pour eux, le temps ne s'écoule pas. Il est comme figé. Quand on est mort pour toujours, que représente une journée, 1000 journées, voire 1 million? Rien du tout. Quel que soit le passage du temps, on est mort et on le restera. La mort étant un état permanent qu'on connaît pendant une période illimitée, elle n'a aucune valeur en soi. En conséquence, le temps n'en a plus, lui non plus.
Je crois que je comprends. Mais je ne vois pas le lien avec ces demi-humains qui vivent si longtemps.
Ils n'ont pas d'âme, Samantha. Cette part d'eux-mêmes est déjà morte. Pour tout ce qui n'est plus vivant, le temps est infini. Les demi-humains vivent dans le troisième royaume en violation de tous les principes de la grâce. Dans ce royaume doté de ses propres règles, la vie et la mort coexistent chez un même individu. Tous deux se combinent d'une façon que nous avons du mal à imaginer. Chaque demi-humain porte la mort en lui. Il en résulte que le temps s'écoule différemment pour lui. Les inventeurs de Sulakan semblent avoir utilisé ce lien avec le royaume intemporel des morts pour créer des êtres capables de vivre très longtemps afin de mieux servir leur maître. Pour l'empereur qui était vivant, le temps importait beaucoup. Sa grande idée a été de combiner les opposés, la vie et la mort, afin de manipuler le temps à son avantage. Samantha dévisagea Richard.
« C'est un peu difficile à saisir. »
Le sourcier acquiesça. C'était assez compliqué pour lui alors qu'il avait vu dans sa vie des choses dont Samantha ne soupçonnait même pas l'existence. À cause de la pitié silence, la mort avait en quelque sorte un droit de regard sur lui et sur Callan. Par conséquent, ils appartenaient tous deux au troisième royaume, n'était qu'ils n'allaient pas vivre très longtemps, bien au contraire. Jeet avait semé en eux la graine de la mort, et le gardien ne tarderait pas à réclamer son dû. Samantha, je te comprends. Entre nous, j'ai un peu de mal à saisir moi-même.